Bienvenue à l'émission Lecture en tête à tête,
une émission imaginée par l'association Lecture en tête pour ses 30 ans,
en partenariat avec l'autre radio
et l'association Lecture en tête.
Aujourd'hui, Lecture en tête à tête reçoit Wilfried Jude, directeur artistique d'Atmosphère 53. Bonjour Wilfried.
Bonjour.
Alors Atmosphère 53, c'est une association d'éducation populaire créée en 1989 pour la promotion du cinéma. Alors pour le grand public, c'est d'abord le cinéma en plein air l'été, le festival du film judiciaire, les rencontres cinéma et santé, et puis surtout les reflets du cinéma dont nous allons parler plus longuement en deuxième partie d'émission puisqu'il s'agit de l'actualité de l'association. Alors je ne vais pas assommer les éditeurs avec trop de chiffres, mais à l'heure où la culture doit justifier son importance et son rayonnement, ces chiffres sont éclairants. Alors Atmosphère 53, c'est 60 000 entrées par an, c'est plus de 500 rendez-vous cinéma, plus de 250 films projetés dans plus de 10 salles sur tout le département. C'est aussi l'éducation à l'image, pour les jeunes en particulier, et pour les publics dits éloignés et empêchés de la culture, type maison d'arrêt ou structure à caractère social, et c'est aussi une résidence de création. Donc voilà pour les grandes lignes. Alors Wilfried, Atmosphère 53, Atmosphère, est-ce que ça vient du film d'Arletty? Enfin pas d'Arletty, mais de la fameuse réplique d'Arletty ou pas?
Alors, Atmosphère 53, effectivement je suppose que ça vient de là, mais je ne maîtrise pas mon historique total, j'en suis désolé. Mais effectivement c'est une poignée de grands cinéphiles qui a créé cette association en Mayenne à la fin des années 80, puis l'association s'est départementalisée suite à la signature d'une convention avec le département. Voilà.
Alors, directeur artistique dans une telle structure, c'est quoi au quotidien ?
Alors, mon travail, c'est d'assurer la cohérence artistique de l'association. Mon travail, c'est de programmer les trois festivals qui font partie de notre offre. Et puis, mon travail, c'est aussi de programmer dans certaines salles du département, pour ne pas les nommer, le Palace de Château-Gontier, le Yves-Robert d'Evron et le Majestic Dernay, le Ciné Majestic Dernay. Je programme toutes les semaines un coup de cœur à réessai. Donc voilà. Et puis je suis là aussi pour travailler en étroite collaboration avec ma collègue des dispositifs scolaires sur elle me sollicite beaucoup pour me présenter les films qu'elle va proposer aux dispositifs scolaires. Donc il y a trois dispositifs, deux maisons qui sont ciné-enfants et ciné-lycéen, et un dont nous sommes les co-coordinateurs avec le Cinéville de Laval, qui est Collège au cinéma, qui est un dispositif national. Je travaille aussi en étroite collaboration avec ma collègue Zoé pour l'élaboration de la liste des films qu'on va proposer à la plein air, mais aussi on est en train de développer des formations et des contenus d'ateliers ensemble.
D'accord, donc gros boulot. Le milieu associatif, c'est un travail collectif, en fait. S'il s'agit d'entretenir le maillage entre les différentes structures, pardon, vous l'avez dit, du département, les structures et les individus, parce qu'il y a les usagers. Donc j'ai évoqué les 60 000 entrées, mais il y a aussi, ça comprend effectivement les scolaires, entre autres choses. Il y a aussi les bénévoles qui sont indispensables. Chez vous, en fait, ils sont à peu près combien? Et puis, quelles sont leurs principales interventions?
Alors, on est à peu près 250 bénévoles. Ils sont 250 bénévoles. Ils interviennent essentiellement sur les... ils viennent présenter des séances, parfois. Okay. Les séances ciné-enfants, ils viennent présenter des ciné-goûtés. Ils sont très présents sur les reflets du cinéma et très présents dans l'accueil du public pour le Festival du film judiciaire de Laval. Donc ils sont, c'est notre cheville ouvrière, ils sont là pour récolter de nouvelles adhésions et ils sont très présents et très investis, on a beaucoup de chance.
Alors usagers, bénévoles et salariés, Atmosphère 53 compte 6 professionnels dont vous faites partie, avec un jeune en service civique.
On est 7.
Semble. Ça fait 7 en tout.
Non, on est 7 en tout.
Ah, vous êtes 7
plus...
en tout plus
Une service civique.
Ah, excusez-moi. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question, on va dire faussement naïve. Le monde associatif n'est pas riche, on va y revenir. On entend parfois que le travail des professionnels pourrait être fait en partie par des bénévoles. Une tentation entretenue par l'idée que la culture, ça serait davantage une question de goût qu'une question d'expertise, que la culture serait presque plus un passe-temps, un loisir qu'un travail. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, pourquoi est-ce qu'on a besoin de professionnels dans ces secteurs ?
On a besoin de professionnels parce que notre savoir-faire et notre expertise permet effectivement d'aller à la rencontre des publics C'est-à-dire qu'on y passe tout notre temps. C'est pas un temps partiel, comme même s'il y a des bénévoles très engagés, et j'en connais dans notre association. Mais nous, on connaît les réseaux professionnels, notamment les réseaux du cinéma. Donc, que ce soit les réseaux des producteurs de films, les réseaux des distributeurs de films, qui sont extrêmement importants lorsqu'on travaille avec des salles de cinéma. Donc, et on travaille aussi avec nos pairs, qui sont les subventionneurs et qui sont aussi les grandes instances du cinéma en France, notamment l'AFCAE, l'Association française du cinéma d'art et d'essai, ou le CNC, le Centre national de la cinématographie. Donc, il me semble, mais c'est marrant que vous me posiez la question, parce que c'est un élève de 6e qui me dit, mais c'est pas un travail pour payer votre truc, là.
Voilà, quand on se fait plaisir, voilà, finalement, c'est pas du travail.
Je lui dis, bah si, ça me prend tout mon temps. Et donc, voilà, on est là pour aller chercher avant les autres les films qui pourraient intéresser. On est là, je sais bien qu'il y a une partie, notamment dans les salles de cinéma du département, qui est prise en charge par les bénévoles. Hein, il y a des salles où, entièrement gérées par des bénévoles. Mais parfois, notre expertise, elle est là aussi pour défendre des films, pour aller chercher des perles rares et donc proposer aux salles de cinéma des films dont ils n'auraient pas forcément pensé, auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Donc effectivement, moi, ça fait très longtemps que je fais dans l'action culturelle et ça crée des pratiques, ça crée du maillage de territoire, ça crée des partenariats, comme vous le disiez. On fait des partenariats avec les structures culturelles du territoire, le Carré à Château-Gontier, le Théâtre de Laval, le Kiosque à Mayenne. Et puis la Saison culturelle des Coëvrons. Donc on a des partenaires aussi sur le terrain. On essaie de travailler tous ensemble pour le bien commun.
Voilà, et pour que tout ça fonctionne, eh bien, il faut de l'argent. Alors, pour rappel du contexte, le 20 décembre dernier était voté le budget 2025 des Pays de la Loire, avec une baisse annoncée de 82 millions d'euros, alors que l'État n'en réclamait que 40 millions, c'est important de le préciser. Alors, cette baisse touche les associations sportives, le secteur social et la culture, qui perd environ les deux tiers de son enveloppe budgétaire. Alors, comment est-ce que vous, à Atmosphère 53, vous avez été impacté par cette décision, par cette suppression, brutale, il faut le dire ?
Alors, nous, on a eu le droit à un coup de fil, quand même. Ah. Oui, de M. Thébault, pour ne pas le nommer, qui est l'adjoint à la culture de la région, et qui a dit au directeur général de l'association, Imad Makhzoum, qui lui a simplement dit « c'est terminé ». Donc, la discussion fut brève. Et donc, nous, c'était une... Nous avions demandé pour l'exercice 2025 28 900 euros et donc nous n'aurons rien. Donc les 28 900 euros étaient séparés en deux postes, enfin fléchés sur deux directions, les reflets du cinéma et la résidence d'écriture cinématographique. Et donc comme c'est plus des deux tiers du financement de la résidence d'écriture cinématographique, il n'y aura pas de résidence d'écriture cinématographique en 2025. D'accord. À Atmosphère 53 et en Mayenne. On était la seule résidence d'écriture cinématographique en Pays de la Loire. Donc,
Alors pour terminer sur cette question, enfin si seulement on en avait terminé, ce serait formidable, c'est pas le cas, on en reparlera très certainement. Il faut quand même aussi rappeler que tout le maillage associatif se construit sur des valeurs d'émancipation, de partage, d'entraide. Alors je suis pas fleur bleue, hein, c'est une réalité de terrain. Quand on fréquente les associations, on constate à quel point c'est vrai. Encore faut-il fréquenter les associations, encore faut-il vouloir défendre ces valeurs. Voilà, donc on va écouter à présent la douce Delilah Bon, Dead Men Don't Rape. Dead men don't rape. To the government. This is my body. It's mine to decide what the fuck I can do with it. This is my body. My right to decide is my right to my freedom. This is my body. Yeah, yeah. Not just a body. Yeah. Oh. The sign in a wall, creating a scene. My body is not just a playground. For men with the guns, religion and greed. They're taking our freedom to breathe now. And freedom to choose is taken away. How many more babies will die now? How many women will die? Been pro-life, only been pro-white. Black mothers fighting for justice. And what about babies? You wanna save them? You only care when they're unborn. But you're from the UK, it doesn't affect you. Put in the same ship, we're sinking.
a gun for me. This is my body. It's mine to decide what the fuck I can do with it. This is my body. My right to decide is my right to my freedom. This is my body. Yeah, yeah. I am somebody. Yeah. All of these men do it in secret. Not ready to be a father. So where are their voices? Where is the anger? Acting like it doesn't matter. Punish the victim, making her suffer. Nobody even believed her. Now she is pregnant, having this baby raped by her very own father. How many rights will they take from the women, non-binary, trans people? Violence! Is it the answer? Maybe it isn't, they're scared. We'll discover the strength of our feminine power. The strength of our anger in numbers. We are the witches, they burn at the stake. Black, brown, indigenous women replaced with voices of only white women today, who don't know the struggles that these women face. But this generation is ready to change. We stand with our sisters of every race. We understand racism still has its place in oppressing so many young women today. So keep your politics out of my head.
Alors l'édition 2025 des Reflets du cinéma a lieu demain, puisque c'est du 14 au 22 mars, et c'est le cinéma britannique et irlandais qui est à l'honneur cette année. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette programmation, Wilfried ? Parlons donc de belles choses.
Oui, ça commence demain, donc on a 34 films à proposer cette année, dont le film d'ouverture, le film de clôture et trois séances uniques. On fait une séance traditionnelle au musée Robert Tatin qui aura lieu le 14 à 14h. On fait une séance aussi à Saint-Denis-du-Maine qui est ouverte au public et gratuite sur The Full Monty. Mais autrement, Laval et Mayenne passent tous les autres films et les autres salles de cinéma, donc c'est sur les 11 salles de cinéma du département. Et donc cette année, un panorama, on a 12 avant-premières et exclusivités sur notre programme. On fait un focus aussi sur deux réalisateurs et réalisatrices anglais qui nous semblent très importants. Donc évidemment, nous avons pensé à Ken Loach, qui est un grand réalisateur anglais. Et ensuite à une réalisatrice qui est peut-être un peu moins connue du grand public, mais qui est très importante dans le paysage du cinéma britannique contemporain, c'est Andrea Arnold, qui vient de sortir un film qui s'appelle Bird, que nous reprenons pendant le festival. Et ensuite, on a demandé au Festival de Dinard, qui est le festival historique du cinéma britannique et irlandais en France, de nous faire une carte blanche. Donc ils ont choisi de nous proposer les deux derniers Hitchcock d'or, à savoir les deux derniers Grands Prix, celui de 2024 et celui de 2023. Et celui de 2023 est un film qui n'est pas encore sorti en France, donc on est content. Alors que celui de 2024 vient juste de sortir en salle. Mais on l'a repris quand même, parce qu'il va passer 7 fois. C'est un film d'Ariane Labette qui s'appelle September and July, et il va passer 7 fois pendant le festival.
Alors concernant donc ce cinéma britannique et irlandais, alors je vais être peut-être un peu caricatural, mais c'est vrai que on associe souvent le cinéma anglais à quelque chose de à la fois drôle et grave, parce qu'il s'empare quand même souvent de toutes ces questions de détresse, soit la détresse sociale, détresse affective. Est-ce que c'est toujours vrai? Bon, avec Ken Loach, on y est quand même. Et est-ce qu'il y a d'autres tendances aussi du cinéma propre quand même au cinéma britannique et irlandais?
Effectivement, dans notre programmation, il y a pas mal de comédies dites sociales. Hein. On fait un ciné-concert autour du film Les Virtuoses. Il y a un film qui s'appelle Pride sur une communauté homo et lesbienne qui va à la rescousse d'un village minier en perdition. Donc effectivement, il y a une vraie tradition de la comédie sociale chez les Anglais, mais il y a aussi les films sociaux, plus à proprement parler. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le réalisme onirique. Donc on est dans une forme de cinéma un peu plus tendre, un peu plus étrange, cette inquiétante étrangeté, comme disait l'autre. Donc notamment le film September and July. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, en tout cas dans les films qu'on propose, c'est qu'il y a plein de films aussi autour d'histoires d'amour. On a pas mal de comédies. Enfin, c'est pas forcément, ça peut être des drames romantiques, notamment le très beau Unicorns, qui est un film aussi en exclusivité sur l'histoire d'un mécanicien qui tombe amoureux d'une drag queen. C'est un très joli film, vraiment. Et donc voilà, aussi une espèce de il y a un vrai travail sur la tolérance et la différence. Donc on a beaucoup de films qui parlent de ça aussi dans notre sélection.
Et est-ce que vous avez un coup de cœur? Est-ce que vous avez le droit de vous autoriser? Je sais que oui, mais...
Alors,
est-ce que vous pouvez nous le dire?
J'ai un coup de cœur et un chouchou.
Ah, d'accord.
Il y en a deux.
Ok.
Donc il y a le prochain film de Mike Leigh que nous avons en avant-première. J'ai essayé d'avoir le réalisateur, mais le distributeur français m'a dit non. Voilà, c'était très compliqué de le faire venir aux dates du festival. Hein. C'était un peu frustrant, mais c'est le prochain film de Mike Leigh qui s'appelle « Deux sœurs ». Qui est un film avec son actrice fétiche et historique qui s'appelle Marianne Jean-Baptiste, qui est nominée aux Oscars, je crois, pour ce rôle. En tout cas, elle était pressentie. C'est un très beau film sur l'histoire d'une âme perdue, d'une femme. C'est un film qui est très particulier, j'ai l'habitude de dire aride, très puissant en termes de sentiments, comment on arrive en tant que spectateur à être en empathie avec une personne carrément antipathique, en fait.
D'accord.
C'est pas un personnage facile, elle est très rugueuse, c'est un rock, elle est névrosée, mélancolique, dépressive, agressive, et pourtant on tombe en amour pour ce personnage et on a envie de l'aider, en fait. Donc c'est un très beau film, avec une rigueur et une mise en scène très lumineuse. Donc ça, c'est le coup de cœur du programmateur. Et mon chouchou, c'est un film qui s'appelle Sébastien, qui est un film qui raconte l'histoire d'un jeune écrivain qui s'invente un alter ego de roman. Mais il fait un auto-journal, en fait, et il se prostitue auprès d'hommes plus âgés. Et c'est un film très très beau qui pourrait intéresser une lecture en tête, parce que c'est un film sur les processus de l'écriture et en général sur les processus de la création. C'est un très beau film.
Il y aurait beaucoup de choses à dire entre le cinéma et la littérature. Il y a beaucoup beaucoup de liens entre les deux et on va y revenir après avoir écouté Lola Young, le titre Messi.
Too perfect, so I open my big mouth.
Nous sommes de retour avec Wilfried de Jude, directeur artistique d'Atmosphère 53. Nous parlons de cinéma et puis nous allons aussi parler un petit peu de littérature. Alors Atmosphère 53 est partenaire du Festival du premier roman et des littératures contemporaines qui aura lieu les 26 et 27 avril prochains pour les journées tout public. Alors Atmosphère 53 nous propose deux films. D'abord un film documentaire de Cécile Lattel, Dans son temps qu'on n'est pas mort, sur l'auteur Marie-Hélène Lafont que nous recevons au festival. Et puis un film d'animation de Florence Miaille, coécrit avec Marie Desplechin, qui s'appelle La Traversée. Alors la littérature et le cinéma ont pas mal de choses en commun, à commencer par le fait qu'on y raconte des histoires. Alors pourtant, j'allais dire, le cinéma réussit là où la littérature peine encore un peu. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le cinéma, c'est un art vraiment pleinement populaire. Ça plaît au plus grand nombre. Qu'est-ce qui fait le succès du cinéma, selon vous, pour qu'on s'en inspire ?
Pour moi, c'est l'art total. Donc, c'est celui qui convoque tous les autres arts à la fois. La littérature, oui. Les arts plastiques, la musique, l'architecture. C'est incroyable cette invention. C'est-à-dire que c'est un geste très, le geste de filmer reste un geste pour moi très archaïque, même avec toute la technologie qui existe. Mais enregistrer le réel, c'est à un moment donné faire sens et faire corps avec tout le monde qui nous entoure. Donc effectivement, je trouve que c'est l'art total en fait. Qui convoque, enfin je me répète, mais qui convoque tous les autres arts.
Voilà, donc on ne va pas pouvoir vous copier en fait, on ne pourra pas faire la même chose en littérature contemporaine. Et puis il y a aussi cette dimension-là peut-être, on parle, est-ce que c'est une question de vocabulaire, on parle pas de... Est-ce qu'on parle de cinéma contemporain ? Bah oui.
Ah oui, 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 bien sûr.
Parce que cinéma contemporain, ça fait pas peur. Littérature contemporaine, c'est comme la musique contemporaine, ça a une dimension, on a l'impression qu'on parle de performance, de quelque chose d'expérimental, et alors que le cinéma garde toujours ce truc très accessible, en fait, ça fait pas peur le cinéma.
Oui, effectivement, quand on dit cinéma contemporain, ça n'a pas vraiment tout à fait la même acceptation. Après, un film qui a 20 ans, on appelle ça un film de patrimoine maintenant.
C'est, oui, quand même.
Oui, voilà. Donc on arrive aux films du début des années 2000 qui sont considérés comme du patrimoine. Et après, le cinéma moderne, c'est ce qu'on appelle le cinéma moderne, c'est un cinéma comme la Nouvelle Vague qui a été à contre-courant des grands mouvements de cinéma jusqu'à l'après-guerre. Donc, mais le cinéma contemporain, effectivement, on peut dire qu'un petit truc en plus est un film contemporain. Mmh. Et sans effectivement que ça ait une connotation,
oui, c'est ça,
pas forcément
un peu élitiste. Ou, voilà,
un peu élitiste, voilà.
Donc le public se déplace toujours dans les salles, finalement, malgré l'avènement.
Oui, alors, bon, heureusement qu'on a un territoire extrêmement bien maillé. Mmh. On a plus de 5000 écrans en France. Paris a plus de salles de cinéma que New York. Et il y a un maillage du territoire grâce aux associations, entre autres. Il n'y a pas que du secteur marchand dans le cinéma, il y a aussi du secteur associatif, même si ça reste marchand, il faut faire des entrées pour qu'un cinéma survive. On a de la chance que les petits cinémas, les cinémas ruraux, les cinémas des petites villes alimentent aussi notamment le cinéma d'arrêt d'essai qui peut accéder comme ça à avoir des entrées et accéder au public. Mais en général, ces quatre titres qui concentrent un maximum d'entrées oui. dans l'année. Hein. L'an dernier, c'était L'amour ouf, Un petit truc en plus. Et après, les deux autres, Les Trois Mousquetaires ont très très bien marché aussi. Et Le Comte de Monte Cristo. Donc ça, bon, cocorico, hein, j'allais dire, mais c'est des films qui ont très très bien marché, oui, qui concentrent un peu comme ça un nombre maximum d'entrées.
Et puis c'est vrai que après c'est ces grosses productions, mais comme en littérature, il y a les noms qui font vendre aussi, et puis qui permettent aussi de produire des choses peut-être un petit peu plus confidentielles. Voilà, puis tous les publics se croisent aussi au cinéma. Alors, et vous, votre goût du cinéma, en fait, il vient d'où? Est-ce qu'il vient de loin? Est-ce que c'est
Alors quand j'étais ado, j'étais plus attiré par la bande dessinée et je sais pas ce qui s'est passé. Au milieu de l'adolescence, j'ai commencé à regarder le cinéma, la séance de minuit sur France 3. Et donc je me suis enfilé plein de films italiens d'après-guerre, etc. J'avais 15 ans, ça m'a un peu séduit. Alors ça fait peut-être un peu un télo de dire ça ou je sais pas quoi, ou un peu snob. Et puis après, j'ai commencé à aimer le cinéma. Ouais, oui, j'ai découvert des choses. J'ai commencé à aller voir beaucoup de films d'arrêt et essai dès que je suis rentré au lycée. Ça m'empêchait pas d'aller voir des gros titres. Mais oui, j'ai découvert des cinéastes comme Téchiner, comme René, comme Jean-Claude Brissot à 15 ans. Donc ça m'a bouleversé. Je me souviens que j'avais été voir Noces Blanches de Jean-Claude Brissot avec Vanessa Paradis, et c'est un film qui m'avait... Bon, c'est aussi parce que Vanessa Paradis avait mon âge à l'époque, donc c'est peut-être une mauvaise raison, hein, de boomer, comme on dit. Voilà, j'ai découvert aussi des grands cinéastes comme Piala très tôt, et puis j'ai continué, et puis après, un peu plus tard, quand j'ai eu 18-20 ans, je me suis pris d'amour pour le cinéma expérimental et le cinéma d'horreur. C'est aux antipodes l'un de l'autre. Et j'ai toujours aimé beaucoup le cinéma d'horreur, le cinéma de la limite. En fait, j'aime beaucoup le cinéma de la limite de la représentation. Donc l'expérimental en fait partie. Mmh. Et le cinéma d'horreur peut aller très très loin dans les limites de la représentation. Donc ça m'intéresse beaucoup.
Alors, nous proposons traditionnellement à nos invités de lire un extrait d'un roman de leur choix. Alors, vous avez choisi de nous lire un extrait d'une nouvelle de Mariana Henriquez. Alors, de quelle nouvelle il s'agit?
Alors, c'est tiré du recueil Les dangers de fumer au lit, et c'est la fin de la nouvelle Rambla Triste.
Alors, on vous écoute.
Julieta eut l'air déçue, effrayée. Sofia la rassura, pressant sa main. Mais j'ai senti... Je sens l'odeur. Elle eut un haut-le-cœur. Elle respira profondément et utilisa la serviette pour se boucher le nez. Où l'as-tu senti? Murmura Julieta. Partout. Maintenant. Tu sais ce qu'ils font ? Ils nous empêchent de partir.
Quoi ?
Les enfants nous empêchent de partir. On ne peut plus sortir du Raval. Les mômes ont été malheureux. Ils veulent que personne ne s'en aille. Ils veulent qu'on souffre. Ils nous sucent le sang. Quand tu veux partir, ils égarent ton passeport. Ou tu rates ton avion. Ou le taxi qui t'emmène à l'aéroport a un accident. Ou on te propose un job que tu ne peux pas refuser parce que c'est beaucoup d'argent. Ils sont comme les lutins dans les contes qui changent les objets de place la nuit dans les maisons. Mais en bien pire. Tous ceux qui affirment ne pas vouloir quitter le Raval mentent. Ils ne peuvent pas. Alors ils apprennent à tout supporter. Sophia ferma les yeux. Elle crut entendre les pas rapides d'enfants courant pieds nus dans les appartements restaurés du Raval et imagina un petit dormant dans des vêtements crasseux, tellement en colère, tellement malheureux. Elle put quasiment voir sa bouche édentée et sa misère ancestrale. Elle ne voulait pas le voir en vrai, assis sur le seuil d'une porte rue Escudelers, sur la vieille couverture d'un toxico. Elle ne voulait pas voir la ronde nocturne qu'il effectuait avec ses amis Plaza Negra. « Tu pars demain, lui dit Julieta. À présent, grave protectrice, on va changer ton billet. Je m'en occupe. Tu es juste de passage. Ils ne peuvent pas retenir les touristes. » Et suivant les lumières d'un hélicoptère qui fendait le ciel en direction du nord, elle murmura « Rentre au pays. Laisse-nous. Ne t'inquiète pas. On réussira à s'échapper un jour. Bientôt. »
J'ai pas fait de transition tout à l'heure entre le cinéma d'horreur et la nouvelle, mais je précise, ce que les auditeurs ne voient pas, c'est qu'il y a quand même une tête de mort sur la couverture du recueil, donc en fait c'est cohérent, ça se suit, tout va bien. Est-ce que ça ferait un bon film, cette nouvelle ?
Oui, les nouvelles de Mariana Enriquez sont très cinégéniques, oui, elles sont très visuelles. Là, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, on est vraiment dans l'inquiétante étrangeté, avec du fantastique, mais pas que, avec du fantastique social, et ça me parle beaucoup.
C'est une belle formule, ça, l'inquiétante étrangeté. C'est magnifique. Alors, l'émission se termine. Je rappelle que demain débutent les reflets du cinéma britannique et irlandais cette année, donc du 14 au 22 mars, dans les cinémas du département. Alors, précipitons-nous. Merci, Wilfried Jude, d'avoir accepté notre invitation.
Merci
beaucoup. Et puis, bon midi à tous.